On va continuer notre étude dans Zacharie. Si vous voulez vous y tourner, on est dans Zacharie 12 et 13. Alors qui sait pour qui ce serait la première fois que vous êtes là pour une étude avec nous dans Zacharie? Vous avez tous été là, donc si je vous demande de venir introduire le livre au tableau, c'est bon? Ou il faut que je reprenne quand même un petit peu pour les gens On va commencer en lisant simplement les passages qu'on va regarder ce matin. On va regarder donc Zacharie 12 et 13 aujourd'hui. Je vais lire simplement, puis on va plonger dedans. Zacharie 12. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront dans leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu. » Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David... La fierté des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareille à Dieu, pareille à l'ange de l'Éternel devant eux. Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad-Rimmon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part. Le clan de la famille de David à part et les femmes à part. Le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part. Le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part. Le clan de Shimei à part et les femmes à part. Et tous les autres clans, chacun à part et leurs femmes à part. Et le chapitre 13. Ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront « Tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. » Son père et sa mère, les auteurs de ses jours, le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leurs visions quand ils prophétiseront et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Épée, réveille-toi contre mon berger et l'homme qui est mon compagnon. Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées et je porterai la main contre les faibles. Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les deux tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple, et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour les choses qui sont dans cette partie de ta parole. Aide-nous à y voir clair, à comprendre et à savoir ce que ce passage de la Bible peut avoir à nous dire là où nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Amen. Alors, Zacharie, comme vous n'aviez pas l'air confiant, on va faire quelques petits rappels. On avait vu donc que Zacharie est un livre à la période après l'exil à Babylone. Israël avait été conquis par différents royaumes et emmené en exil à Babylone pour 70 ans. Et ensuite, ils sont revenus dans le pays et tout avait été détruit et ils devaient reconstruire. Et Dieu envoie deux prophètes, Agée et ensuite Zacharie, pour les inciter à reconstruire le temple et à reconstruire la ville. Et à les encourager, à les motiver un petit peu pour qu'ils fassent ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et Zacharie commence donc en leur disant, en les reprenant parce qu'ils n'étaient pas très motivés pour reconstruire le temple, et il leur dit, obéissez à Dieu. Vous avez vu vos parents, l'histoire récente d'Israël, ils n'ont pas obéi et vous avez vu ce qui s'en est suivi. Ils ont été emmenés en exil, donc ne faites pas comme ça. Ensuite, il leur annonce des visions, des 8 voire 9 visions, suivant comment on compte, qu'il a eues dans des rêves ou des sortes de visions que Dieu lui a données, qui parlent du passé d'Israël et qui d'une certaine manière conditionne l'arrivée du royaume messianique à l'obéissance du peuple actuel. Il leur dit, pour que le Messie revienne, il faut que vous obéissiez maintenant, que vous reconstruisiez le temple, que vous reconstruisiez le pays. Donc, continuez. Et il y a des annonces sur le futur d'Israël aussi. Ça, c'est les 6 premiers chapitres. Et ensuite, il y a une discussion avec le peuple où le peuple leur dit, est-ce que si le royaume va arriver bientôt, est-ce qu'on peut arrêter de faire, et puisqu'on rétablit le royaume, est-ce qu'on peut arrêter de faire des deuils sur le fait qu'on était triste, qu'il n'y avait plus de temple, maintenant il y a le temple, donc est-ce qu'on peut arrêter ces choses? Et puis d'une certaine manière, ils demandent, est-ce que le royaume annoncé, ces choses vont arriver bientôt? Et Zacharie, parlant de la part de Dieu, retourne la question et dit, c'est pas vraiment la question de savoir exactement quel jour et quelle heure ça va arriver, mais ma question c'est, est-ce que vous êtes prêts pour quand ça va venir? Est-ce que vos cœurs et vos caractères sont au bon endroit? Et ensuite, on est dans deux parties sur la fin, les chapitres, on pourrait dire 9 à 11, qu'on a regardé précédemment, qui parlent du Messie et qui parlent du rejet du Messie lors de sa première venue. Le fait que Jésus allait venir, mais que Israël n'allait pas le reconnaître et allait le rejeter, dans les chapitres 9 à 11. Et ensuite, dans les chapitres que nous regardons aujourd'hui, et puis le chapitre 14, on voit l'annonce du fait qu'Israël va finalement accepter et reconnaître le Messie à un moment donné, et qu'ils vont vraiment le reconnaître pour ce qu'il est. Qu'ils vont reconnaître leur roi, leur berger, leur messie. On voit dans ce passage que Dieu va déverser sur eux un esprit de repentance. Ils vont se rendre compte de ce qu'il s'est passé lorsque Jésus est venu la première fois et ils vont avoir un grand deuil et vont changer. Et dans le chapitre 14, on va avoir une vision de ce que la Bible nous présente comme étant la nouvelle Jérusalem et sur le fait que Dieu va instaurer un royaume sur terre où Jésus va venir régner pendant 1000 ans et que toutes les nations de la terre vont venir adorer Jésus comme il se doit. Et donc dans notre passage aujourd'hui, les chapitres 12 et 13 et ensuite le 14, il est question, et quand on le lit à haute voix, peut-être que vous en êtes aperçu, il parle de ce jour-là. Dans les versets qu'on a lus, il y a 22 versets, il y a 10 fois cette expression, ce jour-là, ce jour-là, ce jour-là. Voilà ce qui va se passer, ce jour-là. Et il s'agit ici de ce qu'on appelle le jour du Seigneur. C'est la période de jugement du monde par Dieu. Il en est question dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament. Il en est question dans Apocalypse. Il en est question dans Matthieu. On ne va pas s'y attarder aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps et qu'on ne veut pas faire une étude à rallonge quand même. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire Joël 3 et 4, Sophonie 1, qui sont des petits prophètes qu'on a regardés dans un passé pas trop lointain, ou alors dans Matthieu 24, ou alors de lire le gros du livre de l'Apocalypse qui parle de cette période-là. Et un autre nom qu'on a pour ce jour du Seigneur, ce jour-là, c'est la grande tribulation. Et donc c'est une période que la Bible nous présente comme une période de 7 ans où Dieu va juger le monde avant d'instaurer ce royaume millénaire sur la terre. Et alors pour peut-être un petit peu introduire, parce que c'est vraiment lié au passage que nous sommes en train de regarder, nous sommes dans la période de l'Église, dans la période de la grâce, et la Bible, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, nous présente, nous annonce ce qui va se passer à la fin des temps. Et alors là, c'est un sujet vaste, c'est un sujet très riche, mais pour faire très court, et pour présenter notre point de vue de l'Église ici et du mouvement Calvary-Chapelle, il y a des débats théologiques, donc je mets cette petite parenthèse, mais il y a l'idée que à la fin de cette période de l'Église, Dieu va enlever son Église et déclencher cette période de 7 ans qu'on appelle la Grande Tribulation, le jour du Seigneur, qui va être marquée par la reconstruction du Temple à Jérusalem, qui va être marquée par l'avènement d'un personnage qu'on appelle l'Antéchrist, dont vous avez peut-être entendu parler. Et ce personnage va arriver sur la scène et va installer un peu un royaume ou un empire mondial avec une paix mondiale initialement et notamment une paix avec Israël. Mais au milieu de cette période de 7 ans, il va avoir un moment où il va se révéler, montrer ses vraies couleurs et montrer un côté, on va dire, de sa grandeur et de sa folie, de son envie d'être un peu comme un dieu. Cet antéchrist va demander à se faire adorer comme dieu à Jérusalem. Et ce moment-là va marquer le début d'une période, la deuxième moitié de la Grande Tribulation, où Israël cette paix avec Israël va cesser et il va avoir une grande période de tribulation pour le peuple d'Israël. Une période qui va marquer une guerre et une opposition de la part de tous les pays du monde contre Israël et qui va culminer avec ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon, dont vous avez sans doute entendu parler aussi. Ce sont toutes des images et des noms qu'on entend dans la culture populaire, dans des films, dans des choses un petit peu imagées, parce que les images dans la Bible sont fortes et que la culture populaire les a reprises et en a fait un peu ce qu'il voulait. Mais cette bataille finale va se terminer par la victoire de Dieu lui-même sur ses nations et du retour de Jésus à la fin de cette période de la grande tribulation sur terre pour établir ce royaume millénaire sur la terre. Et donc ce panorama, cette vision nous permet de situer les promesses que nous voyons ici. Alors on peut s'y plonger maintenant et j'espère que ce sera plus clair maintenant que je vous ai présenté ça. Verset 1 du chapitre 12. Message, parole de l'Éternel sur Israël, déclaration de l'Éternel qui a déployé le ciel et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme en lui. On a un petit rappel encore une fois sur qui parle. C'est par la bouche de Zacharie, mais c'est quelque chose qui lui vient de la part de Dieu. Et il rappelle qu'il est celui qui a déployé le ciel, qui a fondé la terre, celui qui a formé nos esprits en nous, c'est lui qui est capable de choses incroyables, c'est lui qui a une puissance incroyable. Et ça doit donner une assurance et une attention particulière par rapport à ce qui suit dans les paroles qui arrivent. Verset 2, « Je ferai de Jérusalem une coupe enivrante pour tous les peuples environnants. Il en ira de même pour Juda lors du siège de Jérusalem. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre lourde pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. » Jérusalem nous est présentée comme une coupe enivrante, une pierre lourde, avec toutes les nations contre elle. L'image de la coupe est utilisée dans la Bible souvent pour parler du jugement de Dieu. C'est quelque chose qui annonce le jugement de Dieu sur un peuple, sur l'humanité. Il parle d'une coupe enivrante. Quand on est ivre, on fait n'importe quoi. L'homme qui est ivre s'emporte contre des choses de manière irraisonnée, fait des choses qui vont lui causer du tort à la fin. Et quand on lit ces passages, on devine déjà et on voit déjà que Jérusalem, dans l'histoire de l'humanité, a déjà d'une certaine manière joué ce rôle. On voit les. Je vous avais parlé il y a quelques semaines, et je vous disais que Jérusalem, si on se met dans la position de Zacharie au moment où Zacharie revient, Jérusalem est une petite ville de rien du tout, est un endroit insignifiant au niveau géopolitique de l'époque, est une ville détruite où il ne reste quasiment pas pierre sur pierre quand ils reviennent, et quelque chose qui n'a aucune signification. Et nous, au jour où nous sommes, on a du mal à se rendre compte, je pense, on a du mal à se rendre compte d'une époque où Jérusalem n'avait pas une importance si grande. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, de voir tout ce que Jérusalem a impliqué, Il y a Jésus, il y a le début de l'Église. On voit une période après la destruction de Jérusalem par les Romains où c'est un petit peu, on n'en sait pas grand chose. Mais après, on voit les croisades avec toute l'Europe médiévale qui se dit tiens, on va aller récupérer Jérusalem. Les guerres, quand on regarde les guerres récentes de la première ou la deuxième guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il y avait des batailles très importantes et que c'était quelque chose qui était très important et qui a joué un très grand rôle dans ces grandes batailles. Et on voit la situation actuelle. On voit le fait que l'influence et l'importance de Jérusalem au niveau géopolitique, au niveau mondial, dépasse l'entendement. Il y a quelque chose qui nous dépasse dans la réalité de Jérusalem. Même dans l'actualité très récente, sans parler depuis 1948, de tout ce qui s'y est passé, mais il suffit d'une annonce d'un gouvernement quelque part pour dire finalement on va laisser notre ambassade à Jérusalem et on va reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël, ou une annonce politique de ce genre, et on a un embrasement et ça fait on en parle dans les nouvelles et ça fait tout des titres dans les journaux, et on voit qu'il y a dans cette région tellement de choses, tellement de tensions entre les pays occidentaux, l'Europe, la Russie, qu'il y a des avec l'Iran, avec d'une certaine manière on a grandi dans cette réalité politique là. Moi j'ai grandi depuis que je suis né, Jérusalem est là, Israël est là en tant que nation, donc on a l'impression que c'est normal. Mais au moment où ces choses sont annoncées, C'était quelque chose de sans importance. Et on peut s'attarder aussi, quand on parle de cette coupe enivrante, sans parler de la période de la fin, de la grande tribulation, on voit qu'il y a quelque chose aussi avec la foi musulmane qui est comme une passion, une ferveur incroyable pour une ville. Quand on regarde l'histoire de l'islam, il y a donc ce lieu où on croit qu'il y avait le temple, et qui actuellement est considéré comme un des hauts lieux saints de la foi musulmane, le dôme du rocher, où les musulmans actuels disent qu'ils croient que Abraham aurait essayé de c'était là que Dieu aurait demandé à Abraham de sacrifier Isaac, et surtout ça aurait été l'endroit d'où Mahomet serait monté au ciel. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que ce dôme et ce lieu saint étaient construits avant que cette croyance ne fasse partie de la foi musulmane. C'est venu a posteriori. Il y a eu une construction pour des raisons politiques ou religieuses, des questions de rivalité entre des personnages importants dans la foi musulmane dans les 7e, 8e siècle. Je ne suis pas expert, c'est des choses difficiles dans l'histoire, donc éventuellement je mets un bémol pour vous affirmer ces choses-là avec une grande assurance, mais j'ai été regarder, j'ai essayé de chercher, et les chercheurs occidentaux s'accordent tous pour dire que ce dôme du rocher a été construit plus tard et initialement ne concernait même pas l'idée que Mahomet serait monté au ciel depuis cet endroit. Et pourtant on voit que maintenant c'est considéré comme quelque chose d'important, et là-dedans il y a cette ferveur, et ça nous y fait penser quand on lit cette coupe enivrante. Il y a quelque chose qui déplace la raison, quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut voir, et c'est intéressant parce que même beaucoup de cultes, de sectes, pardon, bizarres, vont accorder une importance à Jérusalem. Les sectes de par le monde vont quand même accorder et dire oui, Jérusalem c'est un truc spécial. Et on voit que c'est une aussi décrit comme une pierre lourde pour tous les peuples, tous ceux qui la soulèveront s'y écorcheront, et toutes les nations de la terre se rassembleront contre elle. Pour une société agraire comme Israël, l'idée d'une pierre lourde ou quelque chose comme ça, c'était l'idée de quelque chose qui était au milieu de notre préoccupation économique ou de notre préoccupation de vie. Si vous avez un champ et que vous êtes en train de labourer le champ et que vous avez une grande pierre au milieu, ça vous pose un problème. Et je pense que donc cette image, il y avait l'idée de quelque chose qui gênait, qui pose souci, qui est là, qui embête, qui nous empêche d'arriver à ce à quoi on va arriver. Et là aussi, dans l'histoire de l'humanité, on voit combien de personnes et de nations et de fois on essaye de résoudre les problèmes de Jérusalem. On essaye de dire on va faire la paix, on va se mettre d'accord, on va réunir tout le monde autour de la table. Et à chaque fois, ça ne marche pas. Dans un des commentaires que je lisais, quelqu'un disait c'est pas simple de résoudre le problème de Jérusalem parce qu'il y a quelque chose de caché dans l'équation. Dans cette équation, il y a le fait qu'il y a une alliance qui ne peut pas être brisée entre Dieu et son peuple Israël. Et le monde peut aller essayer par toutes ses forces de toucher et de changer. On ne pourra pas résoudre parce que il y a Dieu le Père, le Créateur de l'univers, qui a une alliance, une promesse envers le peuple d'Israël. Et cette partie de l'équation, si on ne le reconnaît pas, on ne peut pas résoudre cette situation. Et plus précisément, je pense que ça viendra à son comble. Et au summum de cette situation pendant cette période de la grande tribulation, où les peuples voudront vraiment venir complètement détruire Jérusalem, et où ce sera une coupe enivrante, où ce sera une pierre où les nations de la terre s'écorcheront à essayer de venir l'attaquer. Verset 4, « Ce jour-là, déclare l'Éternel, je frapperai tous les chevaux d'épouvante et leurs cavaliers de folie. » J'aurai les yeux ouverts sur la communauté de Juda, mais je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Donc ces nations vont venir contre Jérusalem, mais Dieu va les frapper d'aveuglement, il va frapper leurs chevaux. C'est une manière de parler de leur force militaire ou de leur force peut-être économique, leurs cavaliers de folie. Et là, il a cette manière imagée où il dit « Moi, j'aurai les yeux ouverts, je vais surveiller Judas, je vais garder Judas, mais les autres, je vais les frapper d'aveuglement, je vais frapper leurs chevaux d'aveuglement. » Et si on regarde on vient ici, je pense, à une description de cette bataille d'Armageddon et de cette opposition du monde qui va vouloir venir détruire Jérusalem. Et là, vous pouvez aller regarder dans Joël 4, il y a des descriptions. Dans Matthieu 24, il y a des descriptions. Dans Apocalypse, il est question de cette bataille et nous décrivent ces choses. Et ça correspond avec ce qui est décrit ici dans Zacharie. Verset 5, « Les chefs de Juda diront dans leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu. » Une autre traduction dans la Bible, Parole de vie, est dit, « Les chefs de Juda se diront en eux-mêmes, les habitants de Jérusalem sont forts, parce que leur Dieu, c'est le Seigneur de l'univers. » Et dans cette situation, dans cette crise, dans le fait que Jérusalem va être défendu, Dieu va défendre d'une certaine manière Jérusalem, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, le peuple à Jérusalem va se rendre compte, va se dire, le fait que Jérusalem va être suffisamment fort pour se défendre contre ces peuples de toute la terre qui vont venir contre elle, ils vont se dire, c'est parce qu'il y a Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui intervient ici, c'est parce que les habitants de Jérusalem, leur Dieu, c'est le Dieu de l'univers, c'est l'Éternel. Verset 6, « Ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda pareils à un foyer allumé parmi des arbres, à une torche enflammée parmi des épis. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples environnants, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. » Les chefs de Juda, le peuple, Dieu va accorder d'une certaine manière une puissance et la capacité de se défendre au peuple d'Israël d'une manière qui sera incroyable. Ici, la description nous explique qu'ils vont attaquer ceux qui vont venir contre eux, les nations qui vont venir les attaquer autour. Dieu va leur donner la force de les attaquer et de les détruire. Ces choses-là, on pourrait d'une certaine manière aussi voir la position actuelle d'Israël dans une certaine mesure, pas pour justifier ou pour dire que nous validons la position politique de l'Israël actuel, mais on voit que il y a eu des périodes, la guerre de six jours, où les nations arabes autour d'Israël ont voulu attaquer, et Israël s'est défendu de manière assez incroyable. Et on voit que Dieu a accordé à ce peuple une puissance militaire et une organisation qui est assez incroyable comparée à la taille de leur pays. Mais encore une fois, je pense que ça viendra surtout à son comble et à son plein accomplissement pendant la période de la grande tribulation. Verset 7, « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la fierté de la famille de David, la fierté des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le plus faible parmi eux sera ce jour-là pareil à David. La famille de David sera pareille à Dieu, pareille à l'ange de l'Éternel devant eux. » Il y aura une unité, une égalité entre tous les Israélites, pas seulement ceux qui sont à Jérusalem, il y a ceux de Juda aussi. Ici, on nous parle de l'idée d'un siège de la ville de Jérusalem. Et s'il y a un siège, il y aura aussi les gens. Juda, c'est le territoire autour de Jérusalem. C'est l'idée qu'il y aura aussi des conséquences pour eux. Si des gens veulent venir attaquer Jérusalem, ils vont être obligés de passer par Juda. Dans ce passage, on, on mélange et il y a des manières imagées de parler de Jérusalem, de Judas, des chefs de Judas, des chefs des peuples. Mais c'est l'idée que c'est Israël. On pourrait se dire, mais Israël, il y a plus que juste Judas en termes de tribus. Mais on s'aperçoit que quand le peuple a été emmené en exil et quand le peuple est revenu de Babylone, Israël s'est concentré dans la grande majeure partie, c'était à Juda et dans le territoire de Juda qu'il se trouvait. Et donc on peut penser que c'est des manières de parler d'Israël, mais encore une fois de manière imagée. Mais là, il leur dit... il n'y aura pas de fierté des gens à Jérusalem par rapport à ceux qui ne sont pas à Jérusalem. Tout le monde aura une force dans la bataille. Et il parle de manière très imagée ici en leur disant le plus faible sera pareil à David. David qui était connu pour être un vaillant guerrier. Si vous vous souvenez de David et de ce qui avait énervé Salomon, c'était qu'on disait que David avait tué ses 10 000. Pardon ? Saül, pardon. Pas Salomon. Saül. Et merci. Et donc c'est l'image de quelqu'un qui est très fort dans la bataille. Leurs chefs, il est dit, seront comme Dieu. C'est des images assez incroyables. Pareil à l'ange de l'Éternel. Nous, parfois, on lit ces passages et on n'a pas Mais si vous venez à l'église depuis un certain moment, est-ce que vous vous souvenez d'un moment où l'ange de l'Éternel est intervenu de manière puissante dans la bataille pour Israël? Dans Ésaïe 37, il est question d'Assyriens qui viennent assiéger Jérusalem et l'ange de l'Éternel sort et le matin il se lève et il y a 185 000 Assyriens morts dans leur camp. Donc cette image, c'est une image incroyablement forte où Dieu est en train de leur dire « Vous aurez une puissance incroyable pour vous défendre dans la bataille contre ces nations qui vont venir vous assiéger. » Verset 9 « Ce jour-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Jérusalem. » On voit ici que Dieu lui-même va protéger Jérusalem, que Dieu lui-même va s'occuper des nations qui vont venir attaquer Jérusalem. Et puis, on a, verset 10, un changement un petit peu, où il dit « Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Hadad-Rimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque clan à part, le clan de la famille de David à part et les femmes à part, le clan de la famille de Nathan à part et les femmes à part, le clan de la famille de Lévi à part et les femmes à part, le clan de Shimei à part et les femmes à part, et tous les autres clans, chacun à part et leurs femmes à part. Et j'aime bien ajouter, ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Dieu va déverser une grande puissance sur le peuple d'Israël par son esprit, mais le fait qu'il va déverser son esprit sur eux va aussi causer un réveil spirituel parmi le peuple d'Israël. Et c'est important de se rappeler que Dieu, dans nos vies et dans la vie d'Israël, son principal intérêt, son premier intérêt, c'est notre état spirituel. Et donc ici, le prophète Zacharie annonce un grand changement spirituel. Ils vont reconnaître le Messie. Et encore une fois, comme on a déjà parlé, comme on a déjà dit, Zacharie est un livre incroyable. Quand on regarde ça, c'est une annonce de la vie de Jésus qui est incroyable. Celui qu'ils ont transpercé. Le fils unique, le premier-né. C'est presque marrant, si ça n'était pas triste, de se demander comment les Juifs de l'époque de Jésus n'ont pas réussi à se rendre compte de ce qui se passait. Quand vous voyez ces passages, quand vous voyez Zacharie, quand vous voyez Zacharie est cité presque une quarantaine de fois dans le Nouveau Testament. Les apôtres, quand ils sont venus à Jésus, quand l'Esprit de Dieu est venu en eux pour qu'ils puissent voir et comprendre l'Ancien Testament, ils ont fait, mais bien sûr, mais c'est tellement, oui, c'était là, et 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 on en parle et on en reparle. Et quand on regarde, je vous disais que les chapitres 9 à 11, parlent du fait qu'ils allaient rejeter leur Messie, on se dit, mais comment ils n'ont pas compris? Qui sait si Jésus n'est pas le Messie? Qui sait ce gars-là qu'ils ont transpercé, sur qui il y aura un grand deuil? Même les Juifs aujourd'hui qui ne croient pas, on se dit, et on prie pour leur salut, mais on se dit, quand ils connaissent ces passages. C'est pas des prophètes que les Juifs ont rejetés et que nous on a gardés. C'est des prophètes que les Juifs eux-mêmes connaissaient et connaissent. Mais Dieu ici leur annonce ce jour-là, vous allez revenir à moi, vous allez reconnaître Jésus. Et ils vont regarder Jésus et ils vont être dans le deuil. Ils vont se rendre compte de leur part, de la responsabilité dans la mort de Jésus, dans le fait qu'ils l'ont rejeté la première fois qu'il est venu. C'est aussi une reconnaissance de leur vrai berger. On a vu la semaine dernière dans le chapitre 11 qu'ils vont accepter un berger fou. Et il est question là, je pense, de l'antéchrist, de celui qui va avoir cette paix pendant la première période de la grande tribulation. Mais au milieu, ils vont se rendre compte que c'est un berger fou. Et ils vont reconnaître leur vrai berger. Et on voit ici... Qu'ils vont pleurer comme sur un fils unique, ils vont pleurer amèrement. On voit que le deuil sera comme le deuil d'Hadad Rimmon dans la vallée de Megiddo. Ici, c'est une référence au deuil sur la mort du roi Josias dans 2 Rois 23 et dans 2 Chroniques 35. On ne va pas s'y tourner. Mais c'était un très bon roi qui aimait Dieu. Et quand il est mort, il y a une grande tristesse parmi le peuple. Et donc il fait référence à ça. Ici ensuite, il parle des familles de David, de Nathan, de Lévi, de Shimei. Et je ne voyais pas forcément de quoi il s'agissait, mais en lisant les commentaires et en regardant les passages qu'il cite dans l'Ancien Testament, il pense que c'est représentatif des différents pans de la société, de l'autorité du peuple d'Israël. David, ça représente la royauté. Nathan, ça représente les prophètes. Si vous regardez dans 2 Samuel 7, il est question de Nathan. Et ensuite, Lévi et le clan de Shimei, ce seraient les prêtres. Et puis toutes les autres familles. Et ici, il y a l'idée qu'il y a, c'est tout le monde qui va reconnaître Jésus et qui va être dans le deuil. L'autorité politique, l'autorité religieuse, tout Israël. Un des commentateurs que je lisais disait que ce sera l'accomplissement ultime de la fête du Yom Kippour, qui est le jour de l'expiation, qui est la fête juive qu'ils célèbrent encore aujourd'hui de deuil national sur le péché du peuple. Et que ce sera vraiment la reconnaissance ultime de leur faute vis-à-vis de Dieu et de leur rejet de Dieu. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est qu'ils vont être pardonnés, c'est que le deuil va se transformer, qu'ils vont être lavés. Dans Romains 11, verset 26, Paul nous parle d'Israël et nous parle du plan de Dieu Israël et il dit « Ainsi tout Israël sera sauvé ». Comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et écartera de Jacob les impiétés. Dieu va finalement les purifier. Quand on regarde l'Ancien Testament, il y a de nombreuses fois où il leur dit « Purifiez-vous, changez vos comportements, purifiez-vous. » Et Dieu va finalement intervenir et le faire lui-même dans leur cœur. Dans ce passage, il est intéressant de noter aussi les petites nuances. Quand on regarde au verset 10, il est dit « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. » Qui c'est qui parle ici? c'est la parole de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, ils m'ont transpercé, ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Qu'est-ce que ça implique ? Que Jésus est Dieu. Que Jésus est vraiment Dieu. Et c'est une affirmation claire et une affirmation qui confirme aussi l'idée de la Trinité. Chapitre 13, le verset 1, ce jour-là, une source jaillira pour la famille de David et les habitants de Jérusalem pour laver péché et souillure. Ce sera une source permanente qui ne se tarira pas. Il va enlever leurs péchés, les souillures, l'impureté. Et en lisant un des commentateurs, il y avait encore là une image incroyable en étudiant ces choses, si on y vient de manière honnête, si on se plonge dans ces textes, si on se réfère aux autres passages dans l'Ancien Testament, on n'a pas le temps ce matin. Mais si vous prenez ces choses et vous allez lire dans Joël ces choses que je vous ai dites, dans Sophonie, que vous allez lire les prophéties dans Ésaïe, que vous allez lire des choses dans les autres passages, personnellement, je ne peux que me dire qu'arriver à une sorte de révérence incroyable pour me dire ce texte, cette Bible est unie du début à la fin et est tissée d'une manière incroyable. Et je vous dis ça parce que quand on voit cette source, quand on voit les mots qui sont utilisés dans l'Ancien Testament, ce qu'on utilisait pour laver le péché, c'était le sang. Ce qu'on utilisait pour enlever les impuretés, c'était l'eau. Et quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé ? On a plongé une lance dans sa côte et qu'est-ce qui en est sorti ? Du sang et de l'eau. C'est beau. Pour laver les péchés et les souillures. Verset 2 du chapitre 13. Pour continuer, ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, j'éliminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. Je ferai aussi disparaître du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère, ceux qui lui ont donné naissance, lui diront, tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Son père et sa mère, les auteurs de ses jours, le transperceront quand il prophétisera. Ce jour-là, les prophètes rougiront chacun de leur vision quand ils prophétiseront et ils ne mettront plus un manteau de poil pour tromper. Chacun d'eux dira « Je ne suis pas prophète, je suis cultivateur. Quelqu'un m'a acheté dès ma jeunesse. » Et si on lui demande « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains ?» Il répondra « C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. » Dieu annonce qu'il va éliminer les idoles et les prophètes, les faux prophètes et l'esprit d'impureté dans le pays d'Israël. L'idolâtrie et les faux prophètes sont les choses qui, au cours de l'histoire d'Israël, les ont toujours amenés à se détourner de Dieu et à tomber dans le péché et ensuite le jugement de la part de Dieu. Quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est répété, l'idolâtrie et les faux prophètes reviennent. Et Dieu va enlever ça. On voit que les faux prophètes vont être traités de manière très dure, de manière juste par rapport à l'Ancien Testament. Dieu avait dit au peuple d'Israël, s'il y a des gens qui prophétisent et que les choses ne se réalisent pas, vous le tuez. C'était quelque chose que Dieu ne prenait pas à la légère. Et il parle ici, il dit, les gens vont revenir à obéir à ce que je leur avais dit. Si quelqu'un parle de ma part et que c'est faux, alors ils vont le tuer comme je leur avais demandé. Ici, ça montre que le peuple d'Israël va être vraiment conscient de ça et va être tellement zélé par rapport à ça qu'il, même si c'est un enfant, le fils de quelqu'un, ils vont dire, mais c'est, tant pis. Les prophètes eux-mêmes vont se cacher, vont essayer de faire semblant. Si on leur dit, t'es un prophète, toi, ils disent, non, moi, je suis agriculteur depuis que je suis tout petit. J'ai jamais, moi, prophétisé, non. Et l'idée des blessures, on pense que c'est l'idée de rituels que pas mal de prophètes utilisaient, où ils se mutilaient, où ils s'autoflagellaient un petit peu. Il y en est question dans Un Roi et dans Jérémie, notamment. Et donc, les gens vont venir et vont dire, qu'est-ce que c'est ces trucs que t'as sur le torse et ils vont dire, non, c'est des choses... c'est d'autres raisons. Alors ici, le verset 6, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Il en est peut-être aussi question de Jésus, les blessures qu'il a aux mains, et de dire c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Verset 7, « Épée, réveille-toi contre ton berger et l'homme qui est mon compagnon, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, frappe le berger et que les brebis soient dispersées, et je porterai la main contre les faibles. » Ce passage est cité dans les évangiles. On pense plutôt que c'est cité dans l'idée que Jésus, quand il est frappé, quand il est crucifié, que les disciples sont dispersés. Mais on voit aussi qu'il y a un accomplissement dans le fait que peu de temps après la mort et la résurrection de Jésus, Israël allait être frappé en l'an 70 par les Romains et que les Israélites allaient être dispersés de par le monde jusqu'à 1948. Et on voit ici, on peut noter plusieurs choses, on peut voir que c'est Dieu qui demande, qui le souhaite. Il y a la volonté de Dieu qui dit « Épée, réveille-toi contre mon berger, l'homme qui est mon compagnon. Le berger, on pense évidemment à Jésus, l'homme qui est mon compagnon, il y a l'idée de quelqu'un qui est légal ou une relation proche. Encore une fois, c'est un argument fort pour la divinité de Jésus. Mais on voit que la mort de Jésus, c'était le plan de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui lui est arrivé. C'était quelque chose qu'il est venu faire et que Dieu souhaitait. Jésus, dans sa mort, a accompli le service de Dieu, a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Verset 8, « Dans tout le pays, déclare l'Éternel, les deux tiers seront éliminés et mourront, mais l'autre tiers subsistera. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple. Et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. » On revient un petit peu, on peut penser que ce verset 7, c'est un petit peu quelque chose qui est tiré de la chronologie, du fait d'être dans ce jour-là. Mais il revient maintenant à cette période, je pense, de la grande tribulation, où deux tiers périront et un tiers survivra. Et il dit, mais le reste sera vraiment mon peuple. Encore une fois, par rapport à ça, on peut voir l'histoire du peuple d'Israël et se dire que depuis ces temps-là, Israël a vraiment vécu des temps de difficultés, des choses tellement difficiles que Dieu les a éprouvées au cours de l'histoire de l'humanité. Je vous renvoie à l'histoire, si vous regardez, pas que la Deuxième Guerre mondiale, mais toute l'histoire depuis la destruction de Jérusalem. Mais on parle aussi dans la Grande Tribulation de ce qu'on appelle l'angoisse de Jacob ou le trouble de Jacob, et il en est question dans Matthieu 24, qui cite aussi un passage de Daniel 12 et qui parle du fait qu'il va avoir une période vraiment de... Dans Daniel, il est dit ce sera un jour tellement horrible comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, et si Dieu ne l'abrégeait pas, personne ne s'en sortirait, ne serait délivré. Et on voit ici la partie du peuple juif qui survit à la grande tribulation, qui viennent à Jésus sur la fin et qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, comme leur Sauveur. Et ensuite, ce groupe qui va être sauvé va former le cœur de l'Israël qui sera restauré et qui sera présente pendant ce qu'on appelle le millénium, pendant le règne de Jésus, pendant 1000 ans sur la terre. Alors c'est un petit peu difficile un dimanche matin comme ça de passer sur ces événements. Si on regarde le livre de l'Apocalypse, on peut y passer 6 mois ou 1 an pour l'étudier ensemble et essayer de bien saisir la chronologie de la fin des temps. Si ça vous intéresse, on peut vous référer à des livres et des bonnes ressources pour approfondir cette question-là. On a aussi des études enregistrées avec des études sur différents passages qui peuvent vous permettre d'approfondir ces choses par vous-même. Mais Peut-être pour le ramener à nous, on peut dire, mais qu'est-ce que je peux tirer de ces choses? Quand je lis ces passages, je lis ces prophéties, et je me dis, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Il y a des éléments au milieu, j'ai essayé de les faire ressortir, le fait que Jésus est qui il est, que la Bible a une autorité incroyable, parce que de la manière dont elle est construite, de l'unité du message, du fait que ces prophéties concernant Jésus sur le court terme se sont réalisées, que Dieu dit « c'est moi qui dis ça », et on peut se dire si c'est Dieu, le maître de l'univers, qui parle et que les choses là se sont accomplies en partie, les choses qu'il annonce qui ne se sont pas accomplies vont arriver. Et on peut se dire Dieu est souverain. On peut être déstabilisé par l'actualité, on peut regarder le monde et le chaos du monde et se dire je ne sais pas ce qui se passe. Et la Bible nous répète de maintes et maintes fois que Dieu est souverain, que Dieu a un plan, que Dieu sait ce qui se passe, que Dieu contrôle. Et parfois, on peut être amené, je pense aussi un petit peu comme le peuple d'Israël, à se dire, Dieu, quand est-ce que ton royaume vient? Quand est-ce que c'est bon? Quand est-ce que ça va être bon? Et je pense que Dieu, un petit peu comme il l'a fait avec le peuple d'Israël, par la bouche de Zacharie, dans les passages peut-être précédents du livre, il dit... Est-ce que nous, on est prêts pour le royaume de Dieu? Jésus nous annonçait, le royaume de Dieu est là, et nous croyons que le royaume spirituel de Dieu est déjà présent, et Dieu nous exhorte à vivre pour lui, à chercher à lui obéir et à changer nos vies pour être en accord avec ça, et être prêts pour faire partie de ce royaume. Et pour terminer, j'aimerais lire dans 2 Pierre, des exhortations par rapport à ça. Et je vais lire un gros passage de 2 Pierre parce que j'aime bien. Ce matin, j'ai hésité à vous lire plein de passages aussi dans l'Ancien Testament. C'est formidable parce que Pierre le répète souvent, mais la Bible, c'est le meilleur commentaire de la Bible. Si vous prenez des passages et que vous allez voir dans d'autres passages et vous les lisez, vous dites, tiens, ça parle vraiment de ça, tiens, ça... Alors si on lit dans 2 Pierre, je vais commencer au chapitre 1, verset 1. « De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, une foi du même prix que la nôtre, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie, il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente, car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. dont Zacharie fait partie. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et on peut sauter ensuite au chapitre 3. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur envoyé par vos apôtres, enseigné par vos apôtres, pardon. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront où est la promesse de son retour. En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes ? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve certes deux points difficiles à comprendre, et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens comme elles le font des autres écritures pour leur propre ruine. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce rappel de la part de l'apôtre Pierre. Ces choses écrites par les prophètes sont des choses écrites parce que tu as voulu qu'ils les écrivent, parce que tu les as inspirées avec ton esprit, Seigneur. Et ces choses, on peut se dire, ça tarde, Seigneur, ou est-ce que ça va arriver un jour ? Et tu, par la bouche de Pierre, tu nous dis, ne vous en faites pas, ça vient. Ne vous trompez pas et soyez diligents, soyez fermes et zélés pour rester dans ma volonté. Seigneur, aide-moi, aide-nous à prendre ces paroles à cœur, à prendre ces annonces, à prendre ces prophéties et à les laisser nous marquer, Seigneur, nous influencer, nous donner un zèle, Seigneur, pour ta volonté, pour ta parole, Seigneur, pour les gens autour de nous, Seigneur. Ces choses qui sont décrites dans la Bible, qui nous semblent être des fables, Seigneur, ne sont pas des fables habilement conçues, Seigneur, par des hommes, mais ce sont des choses que tu dis, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous notre incrédulité et nous à grandir toujours plus dans la connaissance de toi, dans notre relation avec toi, Seigneur, dans notre sanctification, Seigneur, dans le fait de te ressembler, de t'obéir, Seigneur. Merci pour ce matin, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble. Tu es si grand. En ton nom, nous prions. Amen.